Il y a quelques jours, j'étais à Marseille dans le cadre d'un appel d'offres nommé Epticar, géré par CFI, la Fondation Samir Kassir, Babelmed, France Expertise Internationale et la Fondation Analint. Epticar signifie innovation en arabe et ce projet a pour objet de financer l'innovation média dans et pour le monde arabe. Pendant deux jours, la Villa Méditerranée, ce drôle de bâtiment blanc en forme de vague qui jouxte le Mucem, la Villa Méditerranée donc s'est transformé en siège des médias innovants et engagés du Liban, de la Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, du Maroc ou de l'Algérie. C'était un moment hors norme, peut-être hors du temps, qui rappelait la modernité et le dynamisme de celles et ceux qui veulent ancrer le monde arabe dans le 21e siècle. J'étais présent comme candidat à cette bourse pour notre projet Arablog et j'en profite d'ailleurs pour remercier les porteurs d'Epticar pour leur confiance et leur soutien, mais j'étais aussi là en tant qu'observateur curieux et heureux de ce foisonnement improbable. Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Bien entendu, j'ai profité de ce moment pour sortir mon micro en compagnie de deux personnes rares.
Je me sens terriblement déprimé. Je n'ai aucune confiance en l'avenir. J'ai l'impression que d'un instant à l'autre, il va m'arriver quelque chose d'épouvantable.
Impossible à prédire. Et l'avenir,
l'avenir. Que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Elle s'appelle Lina Ratalla. Il y a deux ans, elle et toute sa rédaction ont été renvoyées du journal qu'ils publiaient en Égypte. Leur liberté de parole et leur indépendance d'esprit ne collaient plus avec la stratégie du média qui les employait. Lina et ses collègues ont rebondi en créant Mada Masr. Il s'appelle Malek Radraoui. Il y a un an, lui et ses journalistes ont démissionné de Nawat pour marquer leur désaccord avec la stratégie de ce blog collectif symbole de la résistance tunisienne. Au mois de juin, les anciens de Nawat ont lancé avec Malek leur propre média, ça s'appelle Inkifada. Lina Ratalla et Malek Radraoui étaient à Marseille avec moi. Je vous propose aujourd'hui de vous asseoir avec nous et de les écouter.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayuha al-Mu'atinoun, fi hadhihi al-dhuruf al-'asiba التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان.
Bonjour Lina Ratalla.
Bonjour Ziad.
On s'est rencontrés il y a un peu plus de deux ans. À l'époque, tu étais rédactrice en chef d'Egypt Independent, donc au Caire, en Égypte. C'était deux ans après ce qu'on a appelé la révolution. Deux ans plus tard, tu es sur un tout autre projet qui s'appelle Madamas. On va en parler dans un instant. Avant cela, je veux bien que tu me racontes ce qui s'est passé depuis deux ans.
En fait, lorsqu'on s'est vu au Caire en 2013, j'étais en train d'essayer de sauver Egypt Independent parce que l'administration de Al-Mansouriyoum, qui est la compagnie qui possède Egypt Independent, avait pris une décision de fermer l'édition, bien que ça soit une édition très bien vue, très bien lue.
En anglais à l'époque, donc c'était une sorte de version anglaise, en tout cas une structure anglaise appartenant à un média arabophone qui est un des plus grands médias en Égypte.
Voilà, exactement. Et donc, bien qu'on a eu beaucoup de succès pendant ces cinq ans-là, depuis que Egypt Independent avait commencé, la compagnie avait décidé de fermer l'édition, citant des raisons économiques et financières. L'édition avait 24 journalistes et rédacteurs qui ont perdu leur job, leur position, en fait, deux, trois semaines après qu'on s'est vu au Caire. Et on a réalisé, après la fermeture de l'édition, que ce n'était qu'un pas politique surtout, puisque l'édition est revenue, mais avec toute une autre équipe. C'était juste une question de manque d'intérêt dans notre ligne éditoriale qui était autonome, beaucoup plus indépendante que celle de l'édition arabe, qui est devenu de plus en plus aligné avec le régime pro-militaire qui a pris le pouvoir en Égypte en fait 2-3 mois après, en fait en juin 2013.
Il y avait déjà eu un conflit entre ta rédaction et la direction au sujet, je crois, d'un article qui parlait de Tantawi, qui était l'homme fort de l'armée à l'époque, et de la mainmise des militaires sur l'Égypte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On a eu toujours des problèmes avec le management de l'édition arabe et la rédaction de l'édition d'arabe parce que ils voyaient que notre ligne n'était pas assez assez gentille envers l'armée. Et il y avait cet exemple-là que tu viens de mentionner, là où ils ont décidé de censurer toute une édition imprimée. Nous avions une édition hebdomadaire du journal qui a été censurée par l'intermédiaire de l'édition arabe de Al-Mansilioum parce qu'il y avait un article qu'ils ont vu qui manquait de respect envers l'armée et surtout envers Tantawi, qui était dans le temps à l'époque le chef de l'armée, quoi. Donc il y avait une histoire de divergence et de résistance de notre part envers l'édition d'arabe de contrôler notre travail. À un moment donné, on pouvait plus travailler librement, quoi. Donc là, je suis contente que cette relation-là ait fini parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus un moyen d'être indépendant au sein de l'institution elle-même, puisque éventuellement l'institution a beaucoup plus de force puisque c'est eux qui ont l'argent, quoi. Donc c'était vraiment bien que ça soit quelque chose de très triste, le fait que 24 journalistes ont été renvoyés du jour au lendemain, sans droit, sans rien du tout. Maintenant que je suis plus calme, maintenant que j'ai mon projet à moi, je pense que c'était vers le meilleur vraiment, parce que c'était impossible vraiment de travailler avec eux.
On va parler de ton projet à toi, mais avant ça, je veux bien que tu me dises comment tu comprends ça. 2 ans après une révolution populaire qui a mis fin à une dictature qui durait depuis plusieurs décennies, il y avait énormément d'espoir. D'ailleurs, tu te faisais le relais de ces espoirs. Tu avais expliqué à l'époque qu'il y avait des difficultés, mais que c'était quand même positif, qu'il y avait de quoi être optimiste, etc. On voit un média privé qui, pour des raisons apparemment politiques, de non-alignement à une certaine élite ou à certains dirigeants, n'a pas hésité à renvoyer une partie importante ou toute la rédaction de sa version anglaise. Comment tu perçois ça dans le contexte égyptien ?
Je vois que c'est une des leçons que nous sommes en train d'apprendre du jour où cette révolution a pris place, et c'est pour cela que je pense toujours d'une façon très positive envers cette révolution, parce que on n'arrête pas de découvrir des choses. Je ne nie pas que les médias privés tels que notre organisation étaient très importants pour former une différente forme de journalisme et une différente pratique de journalisme que celle de l'État, que celle des médias de l'État. Mais en même temps, on a découvert qu'après la révolution, ces médias aussi ne sont pas indépendants. Et c'était trop difficile d'apprendre ça avant la révolution. Après la révolution, on est en train de comprendre ce qu'est que l'institution militaire. C'était avant ça une institution complètement opaque. C'était une institution de laquelle personne ne parlait. Et en fait, c'était une institution qui n'a jamais été critiquée, même par les médias privés soi-disant indépendants. Maintenant que ils sont devenus moins opaques, ils sont devenus plus au pouvoir. Une chose qu'on apprend après cette révolution-là, c'est que les médias privés ont intérêt à rester avec cette institution-là, de ne pas les critiquer. Et c'est une question d'intérêt mutuel entre les deux institutions. L'institution militaire a besoin du pouvoir des médias privés pour influencer l'opinion publique, et les institutions des médias privés ont besoin d'institutions militaires pour continuer à exister et continuer aussi leurs intérêts au niveau du business. Donc c'est des intérêts mutuels, et pour nous la leçon c'est que vraiment jusqu'à maintenant on n'a pas vu un modèle de médias indépendants vrai en Égypte.
Alors on va continuer à parler de l'Égypte parce qu'il y a énormément de choses à dire et que la situation a beaucoup évolué depuis 2 ans et depuis 4 ans même. Avant ça, je veux bien qu'on parle de ton média. Donc ça s'appelle Mada Masr, qui est né en 2013 à la suite de la fin de votre projet d'Egypt Independent. Donc le Egypt Independent existe toujours, mais ça n'est plus vous qui le menez. Donc vous avez décidé de mener votre propre aventure, c'est ça ? Tu peux nous raconter ?
On dit toujours que c'était inévitable de revenir ensemble et d'essayer de faire quelque chose parce que on était au chômage et on savait très bien qu'il n'y avait aucune institution qui pourra accepter des journalistes aussi indépendants que nous. Donc il n'y avait pas vraiment de choix. Il s'agissait de vraiment se réunir et d'essayer de faire une différente institution. Et il s'agissait de penser à tous les problèmes qu'on a vus à Egypt Independent et essayer de les éviter à travers ce nouveau projet-là. Et donc on a lancé le site web Madamas en juin 2013, en 30 juin 2013. Le choix de la date à faire avec le fait qu'en Égypte, le 30 juin 2013, il y avait beaucoup de manifestations, de très grandes manifestations qui ont éventuellement mené à la chute du régime de Mohamed Morsi et l'intervention militaire et la venue d'un régime pro-militaire au pouvoir. Et donc nous, on a décidé d'être présents en ce moment-là parce qu'on savait que ça allait vraiment être un moment très critique vis-à-vis la représentation à travers des médias. Ça veut dire qu'on voyait bien qu'il y avait une atmosphère de polarisation en Égypte. Il y avait des médias qui étaient clairement avec le régime des frères musulmans et des médias qui étaient clairement avec le régime militaire. Et on voyait qu'il n'y avait aucune voix qui essayait vraiment de couvrir et de représenter les événements d'une façon autonome et indépendante. Et c'est pour cela qu'on sentait que vraiment notre intervention était très importante dans ce temps-là. Donc, on avait commencé le 30 juin un commencement un peu précoce parce qu'on n'avait ni le financement, ni des bureaux, ni des salaires, mais on sentait que vraiment notre présence au niveau des médias était très importante dans le temps. Et là, et c'est comme ça qu'on a commencé et jusqu'à maintenant, ça continue. Donc, j'ai beaucoup d'espoir si ça a continué pendant une année. Donc, c'est pas mal, je crois.
Qu'est-ce que ça veut dire, Mada Masr?
Mada, en arabe, c'est le mot arabe pour l'horizon, horizon infini, quoi. Donc, ça symbolise un peu notre ouverture à l'interprétation, à l'analyse et notre réaction envers l'atmosphère polarisée de l'Égypte qu'on refuse.
Donc, Mada, c'est l'horizon. Masr, c'est l'Égypte en arabe.
Oui, c'est ça.
Et vous avez pris le parti donc d'être sur Internet, de faire un média en ligne et de faire un média bilingue.
Voilà, bilingue arabe-anglais. Arabe-anglais parce que on pense bien qu'on ne s'adresse pas à une partie de la population seulement et laisser l'autre. Non, on pense que tout ce qu'on dit devra être lu par tout le monde en Égypte et tous ceux qui sont intéressés à la question de l'Égypte en général. On appartient plutôt à une nouvelle ère en général et c'est l'ère de l'Internet, quoi.
Du point de vue du contenu, quel choix vous avez fait du point de vue éditorial ?
On couvre tout, l'actualité surtout, donc on couvre tout ce qui est actualité, mais on est beaucoup plus intéressé aussi à l'analyse et à tout ce qui vient juste après l'actualité. Donc on voit bien que tous les médias mainstream courent...
Mainstream, ça veut dire les médias généralistes ou les grands médias ?
Les grands médias surtout. Les grands médias, bien sûr, ils sont beaucoup plus attirés par l'actualité telle qu'elle sont. Et s'ils ont des positions ou bien pro-militaires ou pro-frères musulmans, ça se reflète bien sur la façon avec laquelle ils couvrent l'actualité. Donc moi, comme j'ai dit avant ça, nous n'avons aucune position, quoi. Mais non seulement on est intéressé à couvrir l'actualité telle qu'elle est, on est intéressé à essayer d'analyser la profondeur de cette actualité, ce que l'actualité veut nous dire vraiment. Donc on essaye de traduire la valeur d'un événement au contexte politique général de l'Égypte. Donc par exemple, on était très active à couvrir la violence qui a eu place en Égypte lors des manifestations du 30 juin.
En juin 2013, donc tu l'as rappelé il y a un instant, celles qui ont conduit à l'arrivée des militaires au pouvoir et au départ des frères musulmans et leur emprisonnement pour beaucoup d'entre eux.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui a suivi, c'est une vague de violence. Et notamment, en un jour, le 14 août, c'était le jour où les forces militaires et les forces de sécurité, par exemple, ont décidé de mettre une fin à des sit-ins qui ont été organisés par les frères musulmans.
Des occupations de mosquées, notamment ?
Des occupations de mosquées et de places centrales au sein du Caire. Et donc, l'action de mettre fin fin à ces manifestations-là était très très violente. En un jour, on avait pas moins de 1000 morts et on a dit bien que c'est un nombre de morts, c'est l'un des plus grands nombres de morts en un jour dans l'histoire moderne du monde en fait. Donc on était très très présents en ce moment-là et non seulement présents à couvrir le moment avec toute son intensité, mais à aussi essayer de comprendre ce que ce moment veut dire pour l'histoire de l'Égypte en général. Donc on a continué à écrire à propos de cet événement-là, bien que la majorité des autres médias essayaient vraiment de l'ignorer pour donner un peu de légitimité au nouveau régime de militaire qui vient d'arriver au pouvoir. Donc on avait une position très claire d'essayer de rappeler les gens de ce qui s'est passé le jour du 14 août, parce que ce n'est pas supposé être un événement oubliable.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez voulu savoir ce que signifiait cet événement par rapport à l'histoire de l'Égypte, par rapport peut-être à l'avenir aussi de l'Égypte? Qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez dit dessus?
Donc on était intéressé à voir en quelle forme est-ce que les frères musulmans en tant que force politique très importante en Égypte, en quelle forme ils pourront revenir un de ces jours à l'espace général, à l'espace politique après cet événement traumatique.
Un espace dont ils étaient grandement privés à l'époque de Moubarak, il y avait des partis ou des candidats qui étaient proches des frères musulmans mais ils n'avaient pas le droit de d'être représentés officiellement, c'est ça?
Exactement. Et puis ils sont revenus clairement après la révolution. Ils faisaient partie de la révolution en fait. Et maintenant ils sont d'une façon très sévère coupés complètement de l'espace public et de l'espace politique. Et donc on était très intéressés à savoir s'il y a une certaine imagination, une certaine possibilité de retour pour ce groupe-là. Donc ça c'est une des questions à laquelle qu'on essayait de poser. Bien sûr, on essayait de voir qu'est-ce que l'appareil de sécurité en Égypte, à quoi l'appareil de sécurité en Égypte pensait lorsqu'ils ont décidé de mettre fin aux occupations de cette façon violente. Est-ce qu'ils comptaient vraiment causer ce nombre de morts? Est-ce que c'était inévitable? Est-ce qu'il y avait d'alternative à mettre fin à une occupation aussi forte, aussi intensive que ça, sans avoir ressort à tant de violence? Donc, toutes des questions qu'on essayait de poser pour illuminer des questions du pouvoir de l'État, comment, à quel degré l'État pourrait être agressif, à quel degré on peut être exclusif à certains groupes politiques, des questions du genre en fait.
Et comment vous êtes perçu justement du fait de votre volonté de ne prendre parti pour aucune des deux grandes tendances, que ce soit les militaires ou les frères musulmans?
Dans un contexte de polarisation, c'est très facile de confondre les gens avec notre position. Donc tantôt on est appelé pro-frères musulmans et tantôt on est appelé pro-militaire. Et la plupart du temps, c'est vraiment la confusion parce que en Égypte en général, ces jours-ci, on s'attend à ce qu'on soit pro un des deux pôles du débat politique. Et donc pour le moment, c'est surtout la confusion. On attire le groupe de gens qui est identique à notre position, donc le groupe de gens, le groupe d'activistes qui sont ni avec les frères musulmans, ni avec la force militaire, ou l'institution militaire, mais c'est une minorité. Pour le reste, c'est surtout la confusion, et je ne crois pas que c'est tellement mal parce que c'est bien qu'il y ait un peu de confusion en fait.
Et tu l'as rappelé, donc vous avez décidé d'être indépendant véritablement des grands groupes financiers, j'imagine aussi. Comment est-ce que vous faites pour survivre? Vous êtes quand même un certain nombre, vous étiez une vingtaine à avoir quitté Egypt Independent.
On l'est toujours. Pour le moment, nous sommes à 30 journalistes et rédacteurs. On ne dépend pas de financement d'investisseurs. Pour le moment, on dépend de financement d'organisations non gouvernementales. Et on n'a pas de problème à recevoir de financement d'investisseurs. Il n'y a juste pas d'intérêt de la part des investisseurs dans notre projet. Surtout que notre condition pour avoir des investissements de businessmen, c'est que chaque investissement individuel soit limité à 10% de la compagnie. Et c'est pas quelque chose que les investisseurs de médias aiment. Ils préfèrent bien sûr la majorité pour avoir plus de contrôle. Et c'est ce qu'on refuse en fait.
Tu restes avec nous, Lina. On marque une courte pause. On se retrouve dans 3 minutes de l'autre côté du flash avec notre second invité. À tout de suite.